قسى قلبي وضاقت مذاهبي. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. ولما قسى بعفوك ربي كان عفوك أعظم.
C'est comme si tu dis l'école de fiqh maliki, ou bien tu dis l'école de nahw, ou bien l'école de hadith, etc. Pourquoi il y a eu déjà le soufisme? Parlons déjà du soufisme, c'est quoi? C'est une méthode d'apprentissage, d'éducation spirituelle. Ça, primo. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était un tout. C'est-à-dire quand on prend un sahabi, le sahabi, il est complet. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une éducation complète, spirituelle, fiqh, tawhid, etc. Donc il n'y avait pas ce qu'on appelle une dichotomie. Bien sûr, les sahaba, c'était des grands soufis, mais le nom de soufisme n'était utilisé que postérieurement. Ils n'avaient pas besoin de cette dichotomie. C'est comme si on se pose la question, est-ce que les sahaba apprenaient le nahou? Non, c'était leur langue arabe, ils n'avaient pas besoin d'aller apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprenait le tawhid. Ils étaient des mouahidines, mais est-ce qu'ils apprenaient comme on l'apprend aujourd'hui nous dans les ouvrages de Tawhid? Non. C'est-à-dire chaque science, postérieurement, des grands savants, quand ils remarquent qu'il y a un danger qui touche ce qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, donc ces savants-là mettent des règles afin de préserver une science telle que Tawhid. Tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le donnait comme tel. Mais une fois qu'il y avait des philosophies qui sont entrées, des philosophes grecs ou romains, ou bien quelques sectes égarées musulmanes, qui ont commencé à secouer la société musulmane, donc les savants musulmans se sont vus obligés de mettre des règles afin de préserver la science de Tawhid au sein de la croyance musulmane. Et c'est à partir de là qu'il y a eu l'imam Abu Hassan Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi. C'était des grands savants musulmans. L'un, il a passé 40 ans chez les Mu'tazilites, c'était un fin connaisseur spécialiste de toute argumentation rationnelle, etc. Et l'autre, c'était un sunnite dès le départ. L'un vivait de côté d'Irak, Syrie, etc. L'autre, Abu Mansour al-Maturidi, il vivait du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan et l'Inde, etc. Donc chacun de son côté a fait des règles, vu le danger qui touchait la société musulmane, des règles de base afin de préserver la science du Tawhid, c'est-à-dire la façon comment nous allons apprendre le Tawhid et la façon comment nous allons défendre le Tawhid. Là, ils n'ont pas inventé le tawhid. La même chose pour le tasawwuf. J'ai fait cette introduction pour venir au tasawwuf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein de spiritualité. Hein? C'était une lumière, subhanallah. C'était plein de spiritualité. Les sahaba étaient pleins de spiritualité. Mais à un moment donné, la dunya est rentrée dans le cœur de la société musulmane, surtout avec le futuhat. L'islam commençait à prendre du terrain à travers le monde. Les convertis sont rentrés et les musulmans, en se confrontant avec les autres communautés musulmanes et non musulmanes, ils ont commencé à toucher à la dunya, ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent, hein, dans le Bayt al-Mal, beaucoup d'argent commencé à rentrer. La dunya a commencé à rentrer dans le cœur de beaucoup de gens. Des savants musulmans tels que l'imam Al-Junayd ont constaté que cette spiritualité qui était enseignée dans dans un moule global, dans une sens globale, ils ont constaté qu'elle a commencé à disparaître. C'est-à-dire que les gens, comme on le voit aujourd'hui, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj, etc. Mais spirituellement, ils sont vides. Ils ont commencé à voir que les gens prient, ça devient comme un sport. Donc ils ont dit, il y a quelque chose d'important qui est le cœur même de notre religion qui commence à disparaître. Donc nous devons mettre des règles afin de préserver la spiritualité en tant que science, comme on a fait des règles afin de préserver... etc. Donc les spécialistes, les premiers grands savants tels que l'imam al-Muhasibi, l'imam al-Junayd, Sidi Abqad al-Jinani, quand ils ont parlé de tasawwuf, ils n'ont pas inventé quelque chose, mais ils ont fait des règles, ils ont théorisé, on va dire, une science qui existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si aujourd'hui, on vous demandera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à partir de quel qira'a? Est-ce qu'il lisait à partir de qira'at Warsh? Est-ce qu'il lisait à partir de qira'at Hafs? Est-ce qu'il lisait à partir de qira'at Hamza? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à partir de toutes ces qira'at qu'il lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire que sallallahu alayhi wa sallam lisait qira'at Hafs? Warsh, dont nous avons lu tout à l'heure. Warsh, il est venu des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait qira'at Warsh et Warsh, il est venu après? Si, l'imam Warsh n'a fait que reprendre la lecture qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui a fait des règles pour qu'elle soit préservée. Il a dit voilà, quand on lit comme ça, etc. La lecture, le prophète lisait cette lecture. Mais l'imam Walsh lui a fait des règles afin qu'elle soit préservée. D'accord? La même chose pour l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il n'a pas ramené quelque chose de nouveau. Il a fait des règles afin de préserver la croyance qu'il était à l'époque des Sahaba. La même chose pour les gens, les grands savants de Tassawuf, ils ont fait des règles afin de préserver cette spiritualité qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui donne le nom de Tassawuf, quand on lui donne le nom de spiritualité, quand on lui donne le nom d'éducation, tout ce que vous voulez, le plus important c'est le contenu. Et les grands savants, il ne faut pas voir le comportement ou bien tel soufi, tel chef, il faut revenir aux références des grands spécialistes de ces sciences-là. D'accord? C'est-à-dire, pour juger ou pour porter un jugement sur une idée, on ne va pas, parce que j'ai vu un musulman faire des choses qui ne sont pas, qui se concordent pas avec l'islam, que je vais juger l'islam à partir de cela. Non. Afin de juger, afin de porter un jugement sur le tasawuf, on peut voir que les grandes références, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, l'imam al-Junayd, Sidi Abdel Qadr al-Jilani, etc. Des grandes sommités, l'imam al-Qushayri, l'imam Sahrawardi, qui ont écrit énormément d'ouvrages et qui ont apporté leurs fruits, que ce soit à travers l'histoire, même aujourd'hui. On voit, c'est-à-dire la pensée, la portée de leur pensée qui était vraiment très avancée par rapport à leur siècle. Donc pour connaître, c'est-à-dire une idée pour la juger, il faut lire, je ne peux pas critiquer le libéralisme en lisant les livres des marxistes. Si je veux avoir une idée profonde du libéralisme, je vais directement lire les livres des libéraux qu'ils ont écrits. Si je veux comprendre qu'est-ce que c'est que le marxisme, je ne vais pas lire les ennemis du marxisme, je vais directement dans les livres du marxisme et voir ce que ces gens-là disent. La même chose pour les soufis. On est condamné, je dis, dans toutes les sciences, surtout nous les musulmans, quelqu'un qui veut connaître l'islam, on lui dit, pour connaître l'islam, il faut lire aux musulmans. On ne va pas lire ce que écrivent les ennemis de l'islam et pour apprendre et connaître l'islam. La même chose pour le tasawwuf. Il faut lire ce que les maîtres soufis ont écrit, tels que c'est Abu Hassan al-Shadibi, etc. Et ces écoles-là, telles que l'école malikite, telles que l'école shafi'ite, telles que l'école hanafite, l'école hanbalite, il y a des écoles de fiqh, la même chose, il y a des écoles de spiritualité. Il y a l'école naqshbandi, il y a l'école de Sidi Abu Hassan al-Shadili, il y a l'école de la tariqa al-Qazaziyya, etc. Donc il y a plusieurs écoles, et chaque école a sa méthode d'éducation spirituelle. Sauf que, il faut le dire, le dérapage existe, et il a existé dans tous les Corans, dans toutes les écoles, donc c'est pas ça, le dérapage, même dans les écoles de Tawhid, le dérapage il a existé. Alors les savants soufis, ils ont fait des règles, des garde-fous, ils ont dit, Imam Junayd, qala ilmuna hada muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Notre science, elle est réglée par le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans garde-fous, celui qui sort d'une mèche, on lui dit, Yahi, tu es à côté de la plaque. C'est pas le tasawuf, c'est pas la spiritualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Et cette éducation spirituelle, elle a existé dès le premier jour, comme je disais. Ahlus Suffa, c'était les grands sahabis. On rapporte que leur nombre étaient jusqu'à 400, ce sont des sahabis. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate de la cabane, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tut' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta ila akhir al ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste avec ces gens-là qui font le dhikr, ces gens-là qui sont dans la mosquée, ces gens-là qui sont mal habillés, ces gens-là qui sont considérés comme des gens pauvres, tellement ils ont passé leur temps à faire le djihad. Un peu partout, ils ont perdu la famille, ils ont plus rien. Ce sont des gens qui passent leur temps à faire le dhikr. S'il y a un djihad, ils sortent, s'il y a des travaux pour la communauté, ils travaillent. On rapporte que le nom de tasawuf, soufisme, tasawuf, l'imam al-Kalabawi, dit qu'il y a plus de 1000 définitions d'où vient ce mot-là. Parmi ces mots-là, on rapporte qu'il vient de ces sahaba qui s'appellent Al-Sufa. Allah Azza wa Jal dit au prophète, reste avec eux, parmi. Et on dit aussi que le tasawuf vient du mot l'Ipsosouf, parce que c'était des gens qui ne s'habillaient pas, c'est-à-dire, on va dire, comme on dit aujourd'hui, avec la marque, etc. Donc c'est des gens, ils s'habillaient donc, bas de gamme, on va dire. Hein, d'accord. Donc sauf, c'est-à-dire, hein, modestie. Voilà qui est le col mardoud. قال الناس في الصوف واختلفوا وظنوه جهلا مقتبسا من الصوفي فصفى قلبه فسمي صوفي. الصفاء c'est la sincérité, la pureté, c'est ça le secret, c'est la sincérité, le cœur même du tasawuf, c'est le cœur même de l'islam. Islam ya ikhwani, التوحيد ما هو التوحيد. قال سيدنا الجنيد ليس التوحيد ما يكتب في الأوراق ولا ما تنطق به ألسنة الشداق ولكن التوحيد ما ذاقته قلوب العشاق. C'est-à-dire, c'est le vrai tawhid. Ce sont les tawhid qu'on goûte. C'est-à-dire, si tu n'as rien goûté, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché, insulté, rien n'a bougé de toi, c'est que le cœur, il est mort. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il touchait les gens, il dit, pourquoi il ne peut pas rentrer dans le cœur. Ah, subhanallah, qu'est-ce qui nous reste si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est touché? Quel est l'amour qu'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est touché, Rasulallah, et sallallahu alayhi wa sallam? S'il est plus cher, c'est Omar ibn Khattab, il a dit, Rasulallah, j'aime tout sauf moi-même. Il a dit, pas encore, Omar, tu n'as pas encore atteint la foi. Jusqu'à ce qu'il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout, même moi-même. Al-Ana, Ya Omar. Il faut qu'on aime Rasulallah, plus que nos chers, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes. Mais cet amour, Ya Ikhwani, ne vient pas comme ça. C'est-à-dire, sans connaître le prophète, on ne peut pas l'aimer. Sans faire salat à la Rasulallah, on ne peut pas l'aimer. L'amour du prophète, c'est une pratique. Et cette pratique-là se vient avec la spiritualité. C'est bien de lire le Coran, c'est bien de faire le dhikr, c'est bien, tout ça. Mais si on ne le fait pas dans un cadre d'une école, c'est comme si quelqu'un s'autodidacte. Tu vas autodidacte, bien sûr, c'est quelque chose de bien, quelqu'un il apprend, etc. Mais s'il n'est pas régi par des chouurs, s'il n'est pas suivi, il peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver. Quelqu'un qui est guidé avec un chef, il va être. C'est-à-dire, c'est comme si tu vas d'ici à Marseille, tu n'as pas de panneau. Tu vas passer à Lyon, tu vas à un moment donné monter à Metz, tu vas aller à Lyon dans Marseille dans une semaine, etc. Mais quelqu'un qui a des plaques, il a un guide, il est guidé. Directement, il va directement, c'est ça l'ordre. Un cheikh, mais celui qui est déjà, il a passé, il a été déjà éduqué par un autre cheikh. Ibn Ma'a Kitab, un des grands savants du siècle, un hafid, l'imam Abdullah al-Ghimari, rahmatullahi alayh, un des grands monuments du savoir, qui rapporte les 10 livres de hadith avec chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux lire quelques passages le temps que une des classes, Al-Rumari, Abdullah Rimari, le temps que une des classes se libère, Inch'Allah, afin de parler, parce que aujourd'hui, depuis des siècles, l'islam était régi par 4 écoles. Et tous les chouyours, c'est comme si tu dis un cheikh n'apprenait pas la langue arabe. C'est pas possible. Ou bien tu dis un cheikh ne connaissait pas le théorie. C'est pas possible. La spiritualité, il l'apprenait tous. Imam Malik يقول طلبت العلم عند ربيع مدة 30 سنة من الصبح إلى الزوال لن أحدث به أحد حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. Imam Malik dit j'ai appris une science, c'est son cheikh Rabi'a, pendant 30 ans, de Fajr jusqu'à Dhuhr, Zawal. Je ne parlerai à personne de sa science jusqu'à ce que je meure. Les savants, ils ont dit ça, je ne sais pas ça, ouf. Parce que c'est une chose personnelle qui le concerne lui et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son adoration. L'imam Malik n'est pas venu pour donner une éducation spirituelle, parlant. C'est un grand savant de jurisprudence. L'imam Ahmed, quand on lui pose une question qui concerne les maladies du cœur, c'est-à-dire qui concerne la spiritualité, il les envoie vers Ma'ruf al-Karhi, qui était un grand soufi de son époque. Donc chacun a sa discipline, chacun a sa spécialité. طيب. On va parler un peu de. Aujourd'hui, si on ne ramène pas des hadiths, les gens, ça devient maintenant, c'est la mode. Il faut toute chose lui ramener des hadiths, mais bon, on va ramener des hadiths. Comme c'est la mode. Parce qu'avant, dès qu'on dit tel cheikh, il a dit khlas, mais maintenant, on marche la vague. Ma'rouf al-Kalkhi. Naam. Ma'rouf al-Kalkhi. L'imam Malik dit, rapporté par l'imam Zarqani, rapporté par l'imam Zarruq, et beaucoup d'autres dans ce chouyouk malikite, dit, il dit, « Man tafaqqaha, wa lam yatasawwaf, faqad tafassaqa. » Celui qui suit le fiqh, mais sans soufisme, c'est-à-dire sans spiritualité, il devient pervers. « Wa man tasawwafa, wa lam yatafaqqaha, faqad tazandaqa. » Et celui qui suit la spiritualité, mais sans fiqh. Celui-là, il devient tazandaqa,
hérétique.
Hein, hérétique, mais on va dire égaré. D'accord. Wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaqa. Et celui qui unit les deux, il est dans le droit chemin. Il a rassemblé, parce que Sayyiduna Jibra'il, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith Jibril, il lui a posé trois grandes questions. Ya Rasulullah, qala akhbirni an al-iman, akhbirni an al-islam, akhbirni an al-ihsan. Il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que la croyance? Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence? Et qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Pour la croyance, il a tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qada'i wa qadari ila ghayr dhalik. Voilà. Ensuite, dans la jurisprudence, l'islam, il va parler de cinq piliers, shahadat an la ilaha illallah, as-salat, az-zakat, al-hajj, ila ghayr dhalik. Thumma sa'alahu an madha? Ensuite, il va poser la question, akhbirni an al-ihsan. Sidna Jibra'il pouvait, il est venu pour éduquer les sahaba, pour leur montrer la façon comment on devait s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la façon comment nous devons poser les questions, et quels sont les grands piliers de notre religion. D'accord? C'est-à-dire ces trois grandes dimensions, à savoir la croyance, la jurisprudence et la spiritualité. On ne peut pas laisser une de ces grandes dimensions de notre religion. C'est-à-dire un musulman qui n'est pas qui ne connaît pas le tawhid, qui ne connaît pas sa croyance, il est vraiment, il marche, on va dire, c'est comme si vous avez quelqu'un qui marche avec un seul pied, il ne marche pas avec deux pieds, d'accord? Ou bien il ne s'occupe pas de la spiritualité, il est vide. C'est pour ça que nos actes vont à l'opposé de ce que nous prétendons dire. C'est-à-dire, je parle de la totalité, de la majorité des musulmans aujourd'hui. Pourquoi nos actes, nous disons que nous sommes des musulmans, mais notre pratique, elle ne va pas, elle se concorde pas avec l'islam à 100%. Pourquoi? Parce que spirituellement, on est vide. Si on était rempli de spiritualité, on n'aura pas un problème dans notre pratique. Les miracles qu'on fait en une seule nuit de Qiyam Lil, elles seront très 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 légères. Mais comme spirituellement, on est vide, on est rempli de dunya, donc là, il y a un problème. Non, donc quand il lui a dit akhbirni al-ihsan, parle-moi de qu'est-ce que c'est que l'ihsan. Qala al-ihsanu an ta'bud Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu le vois. Et si tu n'arrives pas à ce stade-là, qui est un stade très élevé, sache qu'il est en train de te voir. Maqam al-muraqaba wa maqam al-mushahada. Maqam al-muraqaba wa maqam al-mushahada. Les soufis tirent de cela quand ils parlent de maqamat, khawfun, ridha, shukrun. Mahabba, c'est-à-dire quand les soufis parlent du cheminement que la personne, que le mourid doit faire dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, quand Sidna Ibrahim Khalil dit Inni dhahibun ila Rabbi sayyidin, je vais partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va partir où? Il a fait ses bagages. Il est parti en Palestine, mais c'est-à-dire son cheminement, c'est qu'il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sidna Abu Hamd al-Ghazali, c'était le plus grand savant de son époque. Comme on dit aujourd'hui, par exemple, le Cheikh al-Qarraoui, ou bien. C'est-à-dire, c'est la plus grande université de Madrasa al-Ghazali, c'était lui le directeur. D'accord? C'est Mifo, à leur époque. Karne Khamis al-Hijri, le 5e siècle, je veux dire, au moment où l'islam, c'était, il y avait des sommités. Il est resté, il disait, il a fait la prière derrière son frère. Son frère, il c'était un grand soufi. Et c'était, scientifiquement, c'était quelqu'un de moyen. Il n'avait pas la science qu'avait l'imam Abu Hamd al-Ghazali. En résumé, l'imam Abu Hamd al-Ghazali, il a constaté, il a dit, toute sa science que j'ai, avec tous les ouvrages que j'ai écrits, j'ai senti que, c'est-à-dire, il y a certains, c'est-à-dire, on va dire, chef Asrar, c'est-à-dire, il disait que...
ça sent caché, subtil.
Voilà, subtil. C'est-à-dire, il disait que les gens me voyaient, ils voyaient les gens, ils ne voyaient pas Allah Azzawad de ce qu'il donnait comme savoir. C'est-à-dire, il avait, c'est comme si il était content que les gens disent, MashaAllah, regarde, Allah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rentré. Il disait, son frère, il voulait l'aider pour que tout ce qu'il fait sera donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, écoute, tu vas venir, il y a un cheikh spécialiste de ces problèmes, de l'intérieur, de la spiritualité. Tu vas voir avec lui. Quand il est arrivé le voir, ce cheikh-là, il lui a dit, écoute, Cheikh Al-Ghazali, il a cru, Abd Ghazali, pas comme ça là, on peut la faire. Cheikh Al-Ghazali, il a cru. Il a cru, Abou Hamid Al-Ghazali, il a cru que, parce que lui, il dit dans le Muqaddimat Ibn Dalal, il n'y a pas une science dont j'ai entendu parler, et je ne suis pas rentré dans sa science pour devenir un maître de cette science-là. Toutes les sciences, même la philosophie. Il a appris en 2 ans l'écriture grecque, l'écriture latine, pour lire dans les ouvrages d'origine qui viennent des latins, etc. Il est devenu maître de la philosophie. Il a même écrit un ouvrage pour montrer qu'il maîtrise la philosophie. Maqasid al-Falasifa, juste après 6 mois, il a écrit Tahafut al-Falasifa. Il a donné un coup à la philosophie. Elle ne s'est jamais remis, debout, depuis que l'imam al-Ghazali lui a donné un coup. Enfin, Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, Hujjatul Islam. Quand tu l'as vu son frère, son frère lui a dit, viens voir le cheikh. Cheikh lui a dit, Ghazali l'a ramené avec lui. D'habitude, on doit écrire, c'est une science d'écriture. Cheikh lui a dit, non, classe. L'écriture, la blablabla, l'hadragla, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est la pratique. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup donné de conférences, tu as beaucoup écrit, tu as beaucoup d'élèves. Maintenant, c'est fini, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois pratiquer? Tu dois pratiquer avec sincérité, tu regardes plus les gens. Et ça, c'est pas facile que la personne le fasse toute seule. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui est malade de se faire guérir tout seul. Non, il lui faut un médecin. La maladie intérieure, de l'ego, des cœurs, elle est pire que la maladie extérieure. Jarahatu sinan ilaha al-ti'am wa la yalta'imu ma jarha al-lisan. C'est-à-dire les blessures intérieures, elles sont très, 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 très difficiles. Les maladies intérieures, de se faire guérir par rapport aux maladies extérieures, tu vas voir un médecin, tu donnes de la pommade, tu donnes des médicaments, 4, 5, 6 mois, khalas, tu es guéri. Par contre, les maladies intérieures, c'est pas évident. Hein, l'ego, hein, le premier péché qui a été commis dans toute l'histoire de la création d'Allah Azza wa Jalla, qui a créé l'humanité, le premier péché c'est quoi? Ana, moi. Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit quand Allah Azza wa Jalla l'a créé? C'est Adam, lui a dit, prosterne-lui. Ana khayru minhu. Je suis. C'est l'ego. Le plus grand ennemi, c'est l'ego de la personne. Al-hijab, le plus grand voile qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ego. C'est le nefs. Si on arrive à détruire, à le briser, khalas. C'est le plus grand obstacle. Les autres obstacles, ce n'est pas des obstacles. On peut les affronter. Mais l'ego, il est terrible. Il ne faut pas le sous-estimer. Le cheikh de Mohammed, le frère de Abu Hamid, lui a dit. Ahmed, il lui a dit, khlas, maintenant tu laisses tes livres, tu laisses. Tu n'écris pas, tu pratiques. Tu n'écris plus. Ah, j'écris rien, qu'est-ce que c'est que cette chanson sans écriture? Ah, lui a dit, tu vas voir. C'est une chanson qui va jaillir de ton cœur. Que Allah subhanahu wa ta'ala a rempli tous les cœurs qu'il a créés. Yawma alastu bi rabbikum ne suis-je pas, je veux dire rien, qu'olna qalu bala. Tout ce qu'on a dit, Allah azza wa jalla a tout rempli de leur cœur avec le tawhid, avec la spiritualité, avec la science. Mais cette science, elle est à travers le temps, elle s'est enveloppée de péché. C'est comme si tu as une vitre, elle est pleine de poussière, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière si tu ne la nettoies pas très très bien. Alors c'est Abu Hamid al-Ghazali, le cheikh, pour le tester, pour voir est-ce qu'il est sincère dans ce chemin. Il lui a dit, comme tu es, avec son libas, imaginez quelqu'un, un grand cheikh avec libas azhar, hein, mais à l'époque tu avais une tenue. Il a dit, tu vas acheter les abats qui sont les péchés, les abats, tu vas les mettre au-dessus de toi, tu vas faire une tournée autour de tous ces gens-là dans le marché. Et tu vas venir me voir. Terrible. C'est une épreuve terrible. C'est-à-dire, le chef, il va le voir, s'il est sincère, parce que tu vas suivre le chef. Est-ce que tu vas faire ce qu'il va te dire? Cheikh Al-Ghazali, il a commencé à réfléchir. Voilà, le grand chef, Abu Hamid Al-Ghazali, qui a écrit Hujjat al-Islam. Je vais faire et tout, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Je vais tâcher de des bouts des jeux. Ça. Il a dit wallahi, je vais faire ce que ce cheikh va me dire, je vais voir si ces gens-là ils sont sincères, si c'est leur chemin là, ils conduisent vraiment. Il a pris tout ce qu'il a fait, il a fait une tournée autour de lui. Il est revenu le voir. Le cheikh lui a dit, rassure-toi, personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Il a dit, min al-karamat, wa athbitan lil-awli al-karama, wa man nafafan bidhan kalama. Ce sont des prodiges, d'accord? Sont des prodiges, les miracles pour les prophètes et les prodiges pour Allah. Donc Cheikh, il a compris que le Razadé, il est sincère. Là, il lui a dit, écoute, toi, si tu veux suivre ce chemin-là, ton cas, il est plus grave qu'un cas d'un simple, de notre cas, c'est-à-dire d'un simple musulman simple, parce que tu es un grand savant. Ton ego, il est immense. Il est immense. Il est l'équivalent des montagnes. La première des choses, il faut que tu quittes ce pays-là. Tu vas quitter ce pays, tu vas dans un endroit où personne ne te connaît. Personne. Il a dit, voilà le livre que tu vas lire. Il lui a donné deux ouvrages. Il reste en contact avec le cheikh. Il lui a dit, il lui a donné le dhikr qu'il va faire après le marabah, après l'isha, quelques adkars. Il lui a dit, tu lis Ri'aya de l'imam Muhasibi et Qutb al-Qulub Abu Tayyib al-Makki, deux grands ouvrages. Et tu vas dans un endroit où personne ne te connaît. Tu fais ce que je te dis. Une fois que tu as commencé intérieurement, tu as commencé à changer, là, tu as atteint un degré de spiritualité, tu dirais que tu y es arrivé. Et comment tu vas comprendre? Quand les gens viennent te dire « Oh, mashallah », ou bien ils t'insultent, tu sentiras la même chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas réagir pour ton ego. Si tu réagis, tu réagis seulement pour Allah. Sayyidouna Ali ibn Abi Talib, quand il était en pleine bataille, il allait tuer un kafir, le temps qu'il allait lui percer avec l'épée son cœur, le kafir il a craché sur Sayyidina Ali. C'est ça, Sayyidina Ali, il a remis l'épée à sa place, il est parti, il l'a laissé. L'autre, il est devenu fou, il a dit, mais c'est pas possible, je l'ai craché dans ma main, il devrait me couper la tête. Il est allé le voir, mais pourquoi tu ne m'as pas tué? Il a dit, parce que avant, je faisais le djihad pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu m'as craché, je me suis énervé pour moi-même. Je ne voulais pas te tuer pour mon ego. Pour mon ego. Et l'autre, il a fait shahad sur place. Il s'est converti à l'islam. Donc, l'imam al-Ghazali, il est parti au début à Damas. Il a une histoire là-bas. On ne va pas l'étaler. Ensuite, il est parti à Beit al-Maqdis en Palestine. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le Qubba, c'est-à-dire pas là où il y a la coupole, c'est le vrai, c'est pas parce que là où il y a la coupole, c'est pas là où le professeur a fait la prière, c'est à peu près 200 mètres à côté ou 300 mètres. C'est là que Sidna al-Ghazal il est resté. Il disait que je sortais seulement pour faire les prières, non, il sortait seulement pour faire les prières, les obligations, jusqu'à ce qu'il est resté 9 ans là-bas. Il a atteint un degré de spiritualité, comme l'a dit, lui a dit son cheikh. Et là, il est revenu à Madrasa Nizamiya. Et quand les élèves l'ont vu, il leur a dit, maintenant, je vais vous parler. La science dont je vous parlais avant, de fiqh, de siyam, de salat, de hajj, de usul fiqh, de hadith, de tafsir, tout cela dont je vous ai parlé seulement de l'extérieur de ces sciences-là. Maintenant, on va parler de la spiritualité, de l'intérieur de ces sciences-là. Et là, il a écrit, Ihya ul-Din. Comment tu vas revivre l'essence de la religion? Revivification. L'essence de la religion, tu vas le revivre. Oui, revivification. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir prier, mais il suffit de faire. Il faut faire la prière avec la crainte d'Allah Azza wa Jalla. En observant les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand on fait une adoration, il faut que la spiritualité soit présente. Et ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fur et à mesure que les musulmans se sont accrochés à la dunya, ça commençait à partir. À partir de là, comme je disais tout à l'heure, les grands soufis de l'islam, ils ont vu qu'il est très important, il est urgent de mettre des règles avant de préserver cette spiritualité, sinon elle va disparaître, comme ils ont fait des règles pour préserver al-nahw, comme ils ont fait des règles pour préserver al-fiqh, pour préserver al-qira'at, etc., etc. Donc je ne sais pas il est quelle heure, si on peut peut-être on a
6 heures du temps, لا كل واحد كيفاش هو لانه كان الشيخ قال له المستعان هو لو فرير بوز لا كيسيون اي دي محمد غزالي لا بري 9 ans دونك نو سا فا نو فرير سا فا نو بون 90 ans لا هو شوف الانسان والله وانا يا شيخ il nous disait il avait à l'époque 94 ans il nous disait ne croyez pas parce que j'ai 94 ans. Ne croyez pas que j'ai 94 ans, ou plein d'or, ou c'est un taqiyullah, il fait que l'ibada, on l'a vu que dans la mosquée, depuis qu'on l'a connu, je ne l'ai jamais vu dehors. S'il est dehors, c'est pour partir de la mosquée jusqu'à sa maison. Mais il nous dit, jusqu'à présent, je suis dans un combat avec mon ego. واضح. Je suis dans un combat avec moi. هذه حرب سبحان الله مع النفس والشيطان. فخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهم خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. الإمام البصيري رحمة الله عليه ندين. Sache que tu as des ennemis. Tu as l'ego, tu as الشيطان. Et ils ne peuvent pas être jugés partis. Ils ne peuvent pas, eux, prendre comme des ennemis. L'ego et Shaitan, c'est les pires ennemis. Surtout, alors, surtout, ils sont tous les deux. Et surtout, si on n'est pas armé. Comment on peut être armé? C'est comme si tu vas rentrer dans une bataille et tu es désarmé. Tu perds la bataille d'avance. On peut être armé si tu as, spirituellement, tu es fort. Et tu as un cheikh qui te guide. Tu as des frères, mashallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah, c'est-à-dire la puissance d'Allah, la rahma d'Allah, la clémence d'Allah avec le groupe. Hein? Prends pas la main d'Allah, la main dans le sens superficiel. Aujourd'hui, l'anthropomorphisme, il est rentré dans toutes les maisons. Donc, hein? La main d'Allah, il a un pied, il a une main, il a ceci, il a cela, c'est toute la folie. Je sais pas, on est un petit peu sous influence, un peu, on va dire, dans la croyance judéo-chrétienne qui voit l'autre. C'est-à-dire, si on ne peut pas parler de choses qui ne touchent pas, nous musulmans, on n'est pas condamnés à avoir ces croyances-là. Oui. Non, c'est. Le nom du cher de la
Mohammed al-Arjali,
le nom? Non, il n'a pas été cité dans l'histoire. Justement, il n'a pas été cité. D'ailleurs, personne, j'ai fouillé, j'ai un peu cherché un peu partout. J'ai fouillé, il n'est pas cité. Il y en a beaucoup comme ça des chouyours. Tu vois que ce sont des gens. Des grands maîtres, quelqu'un qui est le cheikh de Razali quand même, c'est énorme. Son cheikh, il est Mujaddad. L'imam Zahabi nous dit, c'est lui qui a... C'est, comment on dit Mujaddad? Un réunificateur du 5e siècle. Tu vois, son cheikh, il n'est pas connu. Donc c'est des gens qui ne cherchaient pas. Et les grands chouyours actuellement, on en a connu. C'est des gens qui ne cherchent pas la publicité. C'est des gens qui ne cherchent pas la publicité. Toutes les choses, c'est pas des gens qui courent derrière les micros, qui courent derrière l'argent, qui courent derrière les publicités, qui courent derrière... Non, c'est des gens qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le problème de donner, il reste pour les gens de donner. Tu veux donner, tiens, une fois un cheikh, avec 4 élèves, c'est, le cheikh était pauvre. Bon, les 4 élèves étaient pauvres, mais le cheikh pire. Un moment, en Algérie, c'est des restes, pour le citer, un des grands chouyours de la Tarqa Alaouya Chadili. Ils ont commencé à dire, tellement ils n'ont pas, ils ont honte de dire à cheikh, non, la pauvreté, on est quand même, ça va la misère, c'est grave. Finalement, du a cheikh. Donc, le cheikh, il leur a dit, vous voulez la dunya? Il a dit comme ça, vous voulez la dunya? Il a dit au premier, tiens la dunya. Le dernier, il a dit, non, cheikh, non, je ne veux pas. Wallahi, on les connaît, c'est des gens, les frères, ils les connaissent. C'est des gens qui sont restés, alhamdulillah, dans le. Ils ont plus haut, on les voyait. D'ailleurs, ils sont devenus des milliardaires. Les trois. Cheikh, il est resté comme il est. Et le quatrième, il est resté pauvre. Il survit dans une école. Les autres, chacun, il est devenu un grand milliardaire dans une discipline de vente, etc. Mais c'est des gens qui sont restés pieux. C'est-à-dire, ils venaient de la Zawiya. Et je me rappelle, un d'eux, il reste. C'est un milliardaire, mais dans la Zawiya, quand il rentre, c'est lui qui prend les chaussures. C'est-à-dire, le cheikh, il l'a mis devant pour mettre les chaussures. Tu es milliardaire, attends. À l'extérieur, mais ici, c'est toi qui vas mettre les chaussures derrière. C'est-à-dire, pour l'ego, il est difficile. L'ego, il n'y a pas pire. Cheikh Al-Alaoui, le cheikh qui est le fondateur de notre tariqa, avant qu'il soit dans la tariqa Al-Alaoui, il était dans la tariqa, ce qu'on appelle l'Aïsaouya. Et les gens de l'Aïsaouya, ils sont connus par... ils sont connus dans leur tariqa. Chaque tariqa a sa spécificité. Dans leur tariqa, les Aïsaouya, Allah Azza wa Jal a donné... un prodige à leur cheikh, pas à eux, mais qu'on voit à travers leurs élèves. Bon, c'est des gens, il peut, moi je les ai vus, hein, il peut manger des vers, le vers, il mange le vers, les scorpions, comme ça, il ne pique pas. Et c'est, attention, ce n'est pas prodige pour lui, c'est le prodige pour leur cheikh. Saïd Hawa, c'est comme ça, j'ai lu un livre, il dit c'est des prodiges pour leur cheikh. Alors, Cheikh Al-Alaoui, il était parmi sa tariqa. Il ramenait des comment on dit, enfin, une sorte de cobra, ou enfin, de grands serpents, hein, du désert. Il disait à son cheikh, regarde cheikh, c'est-à-dire pour lui montrer que je suis arrivé à un stade spirituel, il lui dit, regarde cheikh, elle ne me pique pas. Regarde, il lui dit, vraiment des cobras. Cheikh, il le regarde comme ça. Cheikh, il le regarde. Il lui dit, ça c'est un grand cobra. Oui, c'est rien. Ramène-moi un plus grand. Comme ça, je verrai si tu es spirituellement. Il entre, il va chercher, il dit, je n'ai pas trouvé plus grand que toi.
Cheikh lui dit, moi je vais te montrer un cobra plus que celui-là, beaucoup plus que celui-là. S'il n'arrive pas à te piquer, là tu es arrivé spirituellement. Il dit, il est où? Il dit, il est en toi, c'est ton ego. Ça c'est le plus grand cobra. Si tu arrives à le maîtriser, il ne te pique pas. Parce que l'autre cobra, tu peux lui faire déjouer des trucs, tu peux le prendre par la queue. Mais ton ego, pas quoi, pas comment. C'est-à-dire tu peux le gérer. Comment tu peux le... C'est ça la chose la plus difficile. Shaitan, moi je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui tu as créé d'argile. Le moi, je... Mes petits enfants, moi. Le moi, c'est lui. Si on commence par l'enlever, khalas. Il faut comprendre que le cheminement vers Allah Azza wa Jalla, prendre un cheikh ou suivre un tariqa, ce n'est pas une obligation. Les gens, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une obligation. Personne ne t'oblige d'aller apprendre le nahouga. Par contre, dans ton adoration, si tu fais la prière, il faut que tu saches comment tu l'as pris. Et voir le cheminement vers Allah Azza wa Jalla, quand même, c'est quelque chose d'important. Continue. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا يقال له حارثة. Le prophète, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un sahabi qui s'appelle Haritha. Fait bâle ici qu'il m'a dit, « Faqala kefa asbahta ya Haritha ?» Comment tu te trouves cette matinée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, « Comment tu te sens ?»« Qala asbahtu mu'min haqqan ?» Il a dit, « Je me sens comme un vrai croyant. » D'accord ?« Mu'min haqqan ?» Vrai croyant. « Faqala inna li kulli Qawlin haqiqa. Chaque parole, chaque chose que tu prétends, a là une vérité. L'autre, il a dit, mu'min haqqan. Vrai. Il a parlé de la haqiqa. D'accord? Fama haqiqa tu imani. Quelle est la vérité de ta foi? Ma il haqiqa. La haqiqa de ta foi. Faqala azaftu an, azafat nafsi an id dunya, fa ashartu layli wa azma'tu nahari. Il a dit, mon ego, mon nafs, ne regarde plus. C'est-à-dire, quand on dit ces gens-là, ces soufis-là, on s'écarte de la dunya, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Tous ces gens, Zadjaj, Al-Haddad, là, tous ces des travailleurs, des grands travailleurs. Mais la dunya, elle n'est pas dans leur cœur. La dunya, elle est dans leurs mains. Il y a une différence que quelqu'un. Il se peut que quelqu'un, il n'a absolument rien, il a 100 euros, mais ces 100 euros-là, ils sont dans son cœur. Ah, et vraiment, c'est. Et l'autre, il a des milliards, mais c'est des choses qui ne sont pas dans son cœur. Le plus important, c'est le cœur. Est-ce que tu es attaché à Allah? Tu l'as rempli de ton cœur ou tu as rempli autre chose? Bien sûr, on travaille dans cette vie, on a des enfants, on a des familles, etc. etc. Mais, toujours l'extérieur avec les gens, l'intérieur toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Takuna hadran fi qalbika ma' al-haq wa fi dhahirika ma' al-khalq. L'extérieur, ils vont dire, moi je t'achète, tu vends, tu fais, tu suis la charia. Mais ton intérêt, il est toujours Allah. Tu es toujours attaché. عزفت نفسي عن الدنيا فأصرت ليلي وأضمأت نهاري. Il dit je jeûne moi le jour et la nuit je fais قيام الليل. وكأني أنظر إلى عرش ربي. C'est comme si je suis en train de regarder le trône d'Allah سبحانه وتعالى. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. C'est comme si je vois tellement été sa foi elle était machallah. Il a dit c'est comme si je vois les gens du paradis en train de se visiter entre eux. وكأني أسمع عواء أهل النار. C'est comme si j'entends le cri des gens de l'enfer. فقال مؤمن نور الله فقال مؤمن نور الله قلبه. Donc le prophète a dit c'est un croyant que Allah Azza wa Jalla a rempli le cœur de lumière. وفي رواية عرفت فلزم مؤمن نور الله قلبه رواه البزار في مسنده والبيهقي في الشعب. Donc rapporté par l'imam Bazar, l'imam Bayhaqi dans une autre verset de ce hadith, il lui dit عرفت فلزم, tu as connu, reste sur ce chemin là, ne bouge pas, reste sur ce chemin là. Parce qu'il n'y a pas mieux de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la mère des connaissances. D'accord? Oui. Rapporté par d'autres, hein, ce hadith, je ne vais pas rentrer. Rapporté par Ibn Mubarak, Ibn Abdul Razzaq, Ibn Tabarani, Ibn Manada, il a fait la akhiré. Oui. L'imam Suyuti dit ويظهر لي أن أهل هذا الشأن إنما سموا علمهم علم الحقيقة أخذًا من لفظ الحقيقة في هذا الحديث. L'imam Suyuti, il dit voilà pourquoi les gens du tasawuf appellent leur science la haqiqa. Ils ont tiré cela de ce hadith-là. L'imam Suyuti, ce n'est pas n'importe qui quand il dit ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende, entre guillemets, comme ils disent, rendre à César ce qu'il est à César. Et rendre à nos savants leur valeur. Aujourd'hui, tu dis l'imam Suyuti, oh, c'est comme si tu parlais. Mais il faut voir ce qu'est l'imam Suyuti. Il a écrit 600 ouvrages dans toutes les disciplines.
Il a dit, j'ai cherché une discipline dans le sens religieuse où je n'ai pas écrit, il n'a pas trouvé. Il a commencé à réfléchir. Il a écrit sur tout, 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 tout. Alors une fois, il a dit, pourquoi je n'écris pas l'arabe? Vous savez ce que c'est l'arabe? L'arabe, faire la grammaire d'un livre. Il a pensé à faire la grammaire de c'est-à-dire faire, quand on dit l'arabe, c'est-à-dire, non, vas-y.
Il a écrit un livre sur la pâtisserie.
Bah, tu vois. Surtout, des fois, je trouve des ouvrages de ce côté, je dis, subhanallah. Comment il avait le temps de faire tout ça, subhanallah? Allah Azzawajal a fait la baraka de leur temps. Alors, il a dit, j'ai commencé à faire l'i'rab, c'est-à-dire, c'est comme si tu dis, comment on peut traduire l'i'rab?
C'est les désinences, c'est comment hein? On termine les mots, l'i'rab.
Voilà.
C'est les cas, les désinences casuelles.
Voilà, ça existe en français, ça. Si tu veux
pas... C'est-à-dire, dire celui-là, c'est. On n'a pas le, voilà, le nominatif
génétique. Voilà, dire celui-là, c'est l'objectif, celui-là, le sujet, celui-là, ceci,
voilà,
cela.
Avec le.
Avec le.
Ouais. Dhamma,
voilà, avec le. Alors, il dit, j'ai opté pour faire le Coran. Et Arab, le Coran Karim, c'est important quand même. Il a dit, mais j'ai trouvé beaucoup de gens, ils ont fait le Coran Karim. Alors, il a commencé, il a dit, je vais prendre un livre de la Sunna du professeur, ça, je vais faire l'Arab, du début jusqu'à la fin. Il a pris le Musnad de l'Imam Ahmed. Il a fait l'Arab de Musnad de l'Imam Ahmed du début jusqu'à la fin. Subhanallah. Tu imagines. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. Il a écrit dans toutes les sens, c'est une grande transformité. C'est un honneur à la Ummah musulmane d'avoir des gens comme Imam As-Suyuti. Non, pas toi. Vas-y, dis-le, allez, on va faire une roche, c'est comme ça qu'on fait quand il y a. Allez, c'est pas grave, on se met au milieu. Vas-y, on se met au milieu, vas-y, on peut avancer, c'est pas grave. يقول وقد ظهر لي أن نسبة علم الحقيقة إلى علم الشريعة كنسبة علم المعاني والبيان إلى علم النحو فهو سره هو مبني عليه. Il dit, c'est-à-dire que chaque chose, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque chose a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Sayyidun al-Khadir, tous ont lu la sourate de la caverne et mis en passe sans regarder vraiment et donner de l'importance à ce que nous sommes en train de lire. Sidna Moussa, il a rencontré un personnage important et il lui dit, est-ce que je peux te suivre? Sidna Moussa dit, est-ce que je peux te suivre pour que tu m'apprennes des choses que Allah Azza wa Jal t'a appris? Qu'est-ce que c'est que cette chose que Sidna Khadir savait que Sidna Moussa ne savait pas? C'est pas parce que Sidna Khadir il a plus de science que Sidna Moussa, attention, Sidna Moussa il a beaucoup plus de science, mais il y a quelque chose que Sidna Khadir connaissait que Sidna Moussa ne connaissait pas. Sidna Khadir, l'avis le plus retenu chez les sunnites, c'était un prophète. C'était un nabi. Voilà, prophète. Qala, hala tabi'uka, antu allimani man la'ulim darushla. Fa'allamnahu min ladunna ilma. On lui a donné une science de notre part. Min ladunna, l'ilm ladunni. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce personnage une science. Cette science dont parle l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans son livre l'Ihya. Il dit, il y a deux façons de remplir le cœur ou bien se remplir de science. C'est comme si tu remplis un puits. Le puits, tu le remplis, soit tu ramènes de l'eau de loin et tu le remplis, soit tu vas creuser jusqu'à ce que l'eau sort de ce puits-là. Il part de cette science. C'est-à-dire la science qu'il y a dans le cœur, soit on va creuser jusqu'à ce que cette science elle jaillit du cœur, ou soit on va apprendre par aller. Et les deux, c'est-à-dire elles sont importantes. C'est-à-dire, nous devons aller apprendre et nous devons aussi creuser notre intérieur afin de faire jaillir le savoir et la connaissance qu'Allah Azza wa Jal a fait dans nos cœurs. Creuser, c'est-à-dire enlever toute la poussière, hein, tout ce qui couvre, ce qui a couvert mon cœur à travers ce qu'on voit, ce qu'on fait, de choses qui contredisent ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas. Taïb. يقول سلطان العلماء le sultan des, pourquoi on l'a surnommé العلماء العز بن عبد السلام سلطان des savants, bon, il y a beaucoup d'histoires sur cela, un des grands savants de l'islam à Kulihan, dans son livre قواعد الأحكام الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها. Il dit le chemin vers lequel se fait la purification des cœurs تطهيرها من كل ما يباعد عن الله وتزينها بكل ما يقرب إليها. Il a dit le soufisme, c'est le chemin à partir duquel se purifie les cœurs. وتزينها بكل ما يقرب إلى الله. تزينه, c'est-à-dire c'est le chemin qui te rend beau dans le sens pas beau, dans le sens extérieur, surtout dans le sens intérieur. Tu es heureux dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, car tu n'as pas de, c'est-à-dire tu es léger. Et la beauté ici, elle est métaphorique, hein. c'est pas une beauté extérieure, bien que la beauté extérieure est liée, comme disait Aïcha, c'est-à-dire quand on dit dans le hadith, on dit an fulan, an fulan, an fulan. Des commentateurs soufis ont dit, les sahaba avant ne reportaient pas, n'apportaient pas le hadith à une autre personne jusqu'à ce qu'ils le comprenaient. Une fois qu'ils l'ont pratiqué, ils le transmettent. An. C'est comme si un verre d'eau, une fois que tu le remplis, fava anhu. Une fois qu'il est rempli d'eau, il sort, il dégage. C'est-à-dire, une fois qu'il est rempli de savoir, de connaissance, de la pratique de ce hadith-là, il le transmet à une autre. Fava anhu. D'accord. C'est pour ça que la lumière, il dégage cette lumière. Une fois qu'ils entendent la parole du prophète, ou bien le verset, ils absorbent, c'est-à-dire, ils vivent ce verset-là et le hadith du prophète jusqu'à ce qu'on le voit en eux. On voit, c'est-à-dire le reflet de l'amour du prophète et de leur pratique, de ce qu'ils ont appris. Alors à ce moment-là, ils transmettent ce qu'ils ont appris. Donc Sayyidina Al-Aziz ibn Abdussalam يقول وحسن المآل ولزوم الإقبال عليه والإسراء إليه والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال لا حسب الإمكان من غير أداء للسأمة والملل. Il dit cette science-là, appelée la haqiqa, c'est une science qui met l'adorateur dans une situation à l'aise. Attention, c'est très important. Parce que même dans l'adoration, la personne, à un moment donné, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait une seule adoration. Il a fait salat, il a fait l'écrit du Coran, il a fait tsbih, il a fait siyam, il a fait l'apprentissage. Quand tu vas apprendre la science, tu es dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu apprends la religion. C'est-à-dire la ibada, comme disait Ibn Ata'illah Sakandi rahimahullah, tanawwa'at walidatul ahwal, c'est-à-dire la ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla l'a diversifié pour que hatta la nasam, le malal. On peut traduire, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un ennui. C'est-à-dire, si tu fais une chose, tu t'ennuies, parce que tu fais toujours la même chose.
Lassitude,
voilà. Donc on n'est pas dans la lassitude, on n'est pas dans l'ennui. Pourquoi? Parce que le tasawuf, il te laisse toujours léger, toujours fin, et tu es conscient dans ton cheminement, tu sais ce qu'il faut faire, dans quel moment il faut faire, et tu commences à connaître les ruses de Shaitan et de ton ego, tu les esquives. D'accord? Et ça vient bien sûr avec le tasawuf, mais aussi avec l'apprentissage de la sharia. Attention, ça, comme j'ai rapporté tout à l'heure la parole de l'imam Malik, ça ne suffit pas d'être un grand spirituel si on ne suit pas la sharia, si on ne connaît pas la sharia. Il faut les deux. C'est comme si il faut un oiseau ne peut pas voler avec un seul aile, l'homme ne peut pas marcher avec un seul pied. Donc il faut la sharia, il faut la haqiqa. D'accord. Je crois que ça
Moins 20.
Selon Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Craignez firasa, c'est-à-dire on va dire le regard, ou bien le Allah azza wa jalla, les vrais croyants, ceux qui sont spirituellement avancés. Attention, il regarde ce que vous ne voyez pas, l'intérieur des choses. Hein? Parce qu'il voit avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith il est rapporté par Tabarani, Nabi Hatim, l'imam Tirmidhi et d'autres. Et cette histoire, il y a une histoire qui s'est passée avec Sayyidina Uthman ibn Affan. Une fois, il donnait une khutbah comme ça à un prêche. Il y avait un sahabi qui était à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un sahabi ou un tabi'i. Donc, une femme, elle est passée. Donc il y avait du vent, elle était habillée, lui, il regardait, hein, le vent, il jouait avec ses habits, il a quand même regardé parce que, bon, il a vu le dessous de ses pieds. Bon, il est rentré. Mais Sidna Othman, il était en plein prêche, hein, il n'était pas à l'extérieur, la mosquée, elle était fermée. Dès qu'il est rentré, il a dit Ittaqillah. C'est Narathman Ibn Affan, il a dit crains Allah. L'autre, il est devenu rouge, il a dit Subhanallah. Est-ce que c'est une révélation après que le prophète est mort ou quoi? Il a dit Awahyum Ba'dan Nubuwa. Il est resté figé parce que personne ne l'a vu. Et l'autre, il est tourné dans la mosquée. Il lui a dit Ya Uthman, Awahyum Ba'dan Nubuwa. Est-ce qu'il y a une révélation après que le prophète est mort? Il a dit non, c'est pas une révélation. Voilà qui s'amère la soirée, s'amère Paul, et tapo fera cette mouvement, il n'a rien à bémol là. J'ai entendu le professeur nous dire craignez le regard, la vue d'un croix, parce qu'il voit avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait des chouïrs pareils, Allah, ils nous disaient, on était avec eux, ils disent quand tu es avec un saint, protège ton cœur. Et que, quand tu es avec un savant, protège ta langue. D'accord, avec un cheikh, un savant, ne dis pas de bêtises, hein, tu vas dire des choses. Mais avec un waliullah, il faut que tu la sincérité, parce que là, tu joues, tout s'écrit. Tout s'écrit là. Toi, tu sais pas, mais tout s'écrit. Et ça, c'est des karamates. Hein. Tu en crois, mais pas crois. Mais bon, jusqu'à ce qu'on aura à faire comme ça, on sera. Bon, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toutes les façons, sahih, hein, rapporté par l'imam Tabarani, Ibn Abi Hatim et bien d'autres. Donc, pour dire que plus on est intérieurement pur, parce que la ta'mal l'absar, ou la ta'mal qulub, latif soudou, c'est-à-dire le vrai aveugle, c'est pas l'aveuglement des yeux, c'est l'aveuglement des cœurs, comme nous le dit le Coran. C'est-à-dire celui qui a un cœur pur, il voit des choses, il voit, c'est-à-dire il interprète, il sent ce que le monde invisible est beaucoup plus important de ce que nous voyons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce monde-là qui nous échappent, que nous ne voyons pas. Tu peux trouver un aveugle, mais il va analyser une situation, un parcours, il va te donner des solutions que nous, avec tout ce qu'on voit, etc., on ne peut pas y penser. Là, on s'en est aussi.